La Fontanelle.
Fragments.
Fragments sensibles et politiques.
Bonjour à tous, bonjour Gaby Jiménez. Nous sommes à la Villa Médicis, 25 juin 2019, dans l'atelier des allumeurs, parasité par quelques bruits ambiants, notamment des chantiers environnants. Donc nous allons faire avec. Gaby, pourrais-tu te présenter ?
Alors bonjour, je m'appelle donc Gaby Jiménez, en espagnol, et je suis un artiste auteur des arts visuels. C'est exactement l'intitulé le plus exact de mon activité. Alors je suis issu de la communauté gitana, exactement. Il y a les gitans andalous, gitano andalus, et les gitanos catalans, les gitans catalans. Moi je fais partie de la communauté gitane andalouse. Alors, les gitans andalous, ils se désignent eux-mêmes comme étant des calés. Calés, ça veut dire noir, en fait. J'invite d'ailleurs, pour ceux qui sont un petit peu férus d'histoire, etc., et de mythologie, de faire la passerelle avec la déesse Kali en Inde, qui veut dire la déesse noire aussi. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose quand même qui nous tient peut-être au niveau linguistique avec des origines indiennes.
Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ce travail, si tant est que ce soit un travail que tu aies choisi ?
Les gitans andalous, pour quelques-uns, pour quelques familles, ils ont tout un pied dans le milieu artistique, dans le côté un peu immatériel, entre guillemets. Donc il y a beaucoup, par exemple, dans les gitans andalous, Calais, il y a encore une subdivision qui a le gitano, les gitans canastero, vanier, ça veut dire, et les gitans valderrio, mais ça c'est péjoratif. Le canastero, c'est le vivier dans lequel est né le flamenco, où le flamenco il a été dévoilé. Mais pas que. C'est chez les canasteros qu'on va trouver le plus d'artistes, par exemple, parce qu'il y a une autre sensibilité et qui fait que c'est un peu plus facile pour nous, parce qu'on baigne déjà dans des milieux artistiques, quels qu'ils soient, en fait. Hein. Ça veut dire que chez nous, par exemple, dans nos familles, par exemple, on a beaucoup travaillé sur les fleurs, sur les marchés avec les fleurs, avec les plantes. On a travaillé beaucoup sur les brocantes, sur les tout ce qui a lié, tout ce qui nous relie un petit peu avec le côté un peu plus artistique. J'aimais mieux me révéler en tant qu'artiste des arts visuels plutôt que dans la musique, même si dans la musique j'ai fait des choses bien. En fait, quand j'ai joué avec les Zénith à Paris, par exemple, des groupes, etc. J'ai déjà pris des intermittents qui sont connus. Hein.
Ça serait donc quelque chose presque de l'ordre de la transmission ou du culturel. Cette inscription que tu as dans un parcours artistique.
C'est une continuité en fait. Mm-hmm. C'est une non-volonté en fait, c'est une impossibilité biologique de pouvoir faire des métiers par exemple comme la ferraille, faire des choses comme ça. On n'y pense même pas, enfin moi en ce qui me concerne, et même autour de ma famille, on n'y pense pas quoi. Alors que d'autres vont peut-être privilégier ça. Nous, c'est pas ça. On n'est pas là-dessus, quoi. On est plus dans le côté... on fait jouer plus, moins la force, en fait. C'est moins une affaire de force.
Alors, tu employais tout à l'heure le terme de gitan, ritano. Nous, souvent, on emploie le terme générique de rom. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner ta définition de ce terme qui est employé très souvent, qui est celui de rom, justement ?
Rom est un terme générique qui a été adopté une sorte d'intelligentsia rom des pays de l'Est, à mon avis, hein, de prise de pouvoir, de monopole pour l'imposer aux autres communautés. Un peu comme si nous décidions, nous par exemple les gitans, les gitanos, de dire que tous ça va être des gitanos et des calés. un mot dans notre langue qui veut dire quelqu'un qui est déjà marié, et en même temps qui désigne une communauté, mais une vaste communauté un peu floue, parce que dedans ça se redécoupe aussi. Je situe au niveau spatial, au niveau géographique, dans les pays de l'Est, mais pas en Espagne, mais pas en France. Après, je conçois que les communautés non gitanes, et notamment les associations, les structures, tous ceux qui s'occupent de la culture de la tziganité en France, et des gens du voyage par exemple, ont cette volonté d'imposer le terme Rom, parce que eux-mêmes transfèrent sur ces communautés-là une sorte d'homogénéité. Ça dessert en fait nos communautés, parce que du coup il y a une généralité, et du coup on gère des problématiques d'une façon générale. Et de désigner des Roms comme étant des Roms, parce que les structures qui s'articulent autour et qui sont financées pour telles, disent « nous, on travaille avec les Roms ». Donc du coup, c'est un peu c'est paradoxal, mais ça dessert les communautés.
Abonder dans ton sens, effectivement, les familles avec lesquelles on travaille sur le terrain Voltaire à Saint-Denis, qui sont a priori de Roumanie, donc plutôt Roms, effectivement, de Roumanie, s'identifient comme des gitans quand on leur pose la question. Mais à la fois, nous, c'est plutôt en perspective de ce que l'Union des Roumanies dans les années 70, qui était constituée d'intellectuels roms, avait décidé dans le sens rom humain, en fait, avec les deux R, et qui me semblait avoir été mis en place pour avoir une espèce de force de frappe, notamment au niveau de l'Europe. Que c'était plutôt dans ce sens-là que ça avait été fait que pour réduire.
C'était en même temps imposer un drapeau, une sorte de pays sans pays, en fait, de territoire sans territoire. C'était en même temps imposer une sorte d'alphabet qui était issu de la phonétique slave, notamment dans sa transcription, etc., etc. Ce qui ne convient pas aux communautés tziganes dans les pays latins. Ça ne convient pas. Et pourtant, il y avait cette volonté, il y a toujours cette volonté d'imposer cette sorte de prête à être Rom, en fait. Après, je rebondis sur Rom des pays plutôt de Roumanie. Alors nous, on dit c'est des Roumains. Vous dites ce sont des Roms, parce que vous avez intérêt à les désigner comme tels. On pense, on a une sorte de sentiment que les structures, beaucoup de structures, comme je reçois sur Internet des comptes rendus en disant « ouais, Roms machin, truc et tout ça, on travaille autour des Roms, on a fait ci, on a fait ça, avec des Roms et des Roms et des Roms ». Moi, quand je parle avec eux, ils me disent « ah non, mais nous, on est des Roumains ». On est citoyen roumain. Donc du coup, moi, je fais le contraire. Je pense que tout ce qui s'articule autour, souvent ce qui s'articule autour, les assos culturels non-roms, etc., elles sont là, c'est plutôt une machine à décitoyenniser, en fait. Ça veut dire qu'on va déposséder les roms de leur propre citoyenneté. Ils ne sont plus roumains, ils le sont accessoirement. Ils deviennent roms, et après, peut-être roumains. Et donc du coup, on va pas parler de la citoyenneté, de leur pensée citoyenne dans une Europe, dans la grande Europe, mais plutôt comme des Roms, avec donc des droits, mais surtout des droits, et on genre un peu ce qui se passe avec en Amazonie peut-être, où on va dire, ah ben non, faut les laisser vivre leur culture, etc., etc. Alors que les Roms, pour l'instant, ceux qui viennent en France, ce sont des migrants, avec des problématiques de migrants. Donc, réglons ces problèmes-là. Combien même une prise en compte de cette particularité culturelle. On a intérêt à maintenir, elles ont intérêt à maintenir cet état-là, parce que ça, derrière, ça justifie des financements et ça justifie des projets qui sont aboutis en disant, voilà, on a travaillé avec les Roms, comme si eux-mêmes n'étaient pas capables de se gérer eux-mêmes là-dessus. Par contre, si on mettait des projets, plus de formation professionnelle, etc., etc., ça marcherait mieux. Pour eux, pour les Roms, pour la communauté Roms migrante. Qui sont avant tout des citoyens européens, notamment des Roumains, ils ont le droit de voter, etc. On crée un pays dans le pays, et là, c'est super dangereux, hein. C'est super dangereux. Nous, les gitans, on n'en est pas là. Alors qu'eux se désignent comme étant des gitans, c'est normal, c'est flatteur de dire vous êtes gitans. C'est comme si on avait des plumes, des chefs indiens avec des plumes partout, quoi. C'est flatteur. Ça nettoie un peu l'image connotée des Roms, avec, comme les médias l'ont fait, quoi. Mais changer le truc, monter, pour les structures, des fois je leur dis, monter un projet dans lequel on va travailler sur les filières, sur les réseaux professionnels, etc., etc., vous verrez que ça fonctionne. Combien même qu'on parle aussi de la culture, parce qu'elle est importante, la culture. Mais ce n'est pas ce qui prédomine. Comme si le reste s'était annihilé. Et ça, c'est super dangereux. Nous, moi, je suis président d'une association dans le département du Val d'Oise. On est financé par le conseil départemental. On a des travailleurs sociaux, etc. On a des salariés. Les Roms qui se présentent, ils ne se présentent pas comme étant des Roms, mais comme des personnes issues des communautés de Tziganes, etc., mais qui cherchent du boulot. Ou un appartement, etc., etc. Donc, du coup, c'est pas notre spécialité. Nous, on les renvoie sur des réseaux où eux, ils gèrent la migration, les gens migrants, les primo-migrants. Voilà comment ça fonctionne. Après, nous, on est plus spécialisés sur l'habitat caravane, sur les, etc. Ce que les structures qui tournent autour des Roms ont tendance aussi à homogénéiser en disant les Roms, les caravanes. Moi, je vois beaucoup d'associations disant « Ouais, on leur a donné des caravanes et tout », comme si on essayait de fantasmer une fois de plus un mode de vie et on leur impose des modes de vie qui ne leur correspondent pas. Il ne faut pas oublier qu'en Roumanie, ils viennent de quartiers, ils viennent de maisons, ils étaient sédentaires, et là, on recrée quelque chose de fantasmé artificiel, quoi. Après, moi, je vois dans les spectacles de rue, etc., dans les trucs de cirque et compagnie, où les gens s'habillent comme des Roms et tout, et ça participe à la côté bohème, insouciant, etc., ce qui n'est pas le cas. Là, il y a vraiment un décalage entre la réalité et la prise en main des problématiques Roms et ce qui est véritablement.
Donc, j'imagine que tu penses qu'il existe des stéréotypes sur les Roms en France. C'est de ça dont tu parles, en fait.
Alors, je pense que les stéréotypes, ils sont fabriqués, ils sont créés par l'ignorance et par la projection de la personne qui va s'occuper des Roms sur la problématique. Par exemple, chez les gens du voyage ou chez les Tziganes en France, par exemple, les métiers traditionnels des Gitans, vanier, machin, truc, des trucs, qui ça fait 50 ans que ça n'existe plus, par exemple. Là, on a affaire à des stéréotypes et des fantasmes, hein. Les Roms, ce sont des migrants, mais par exemple, si on parle des Tziganes en France, c'est ceux qui sont en France, et notamment les Gitans, les Sintés, les Manouches, ou les Yéniches, qui ne sont pas Tziganes, mais qui sont apparentés, entre guillemets, eux, ils sont bien ancrés en France. Ils sont complètement, ce sont des citoyens, et ils font partie de la constituante de la nation française. On est une constituante, à ce titre-là, on a des droits et des devoirs comme les autres. Il ne faut pas oublier que, par exemple, les Tziganes en France, et notamment les communautés gitanes de France, hein, je parle toujours de France, hein, Gitane de France, la communauté gitane de France, la communauté Sinté, la communauté Manouche, la communauté Rome, des premiers, il y a des Roms qui sont en France depuis 200 ans déjà, hein, et les Yéniches qui sont apparentés tziganes, ce sont une constituante de la République française. À ce titre-là, ce sont des citoyens français. Souvent, on entend dans des émissions, même dans des débats avec des élus, etc., en disant s'ils sont pas contents, ils ont qu'à retourner chez eux, ou alors des trucs super racistes. Faut pas oublier que les, par exemple, les Gitans ou les Manouches sont en France sont français bien avant les Corses, par exemple.
Par rapport à ça, tu penses pas que c'est intéressant de pouvoir jouer justement sur les interstices? Par exemple, je suis française, mais ma mère ou ma grand-mère, elle vient de tel pays. Par exemple,
oui,
là,
on a. C'est ce qui fait la richesse de la France. La France en elle-même, c'est quoi? C'est un assemblage de communautés qui sont venues à un moment. Alors, il faudra m'expliquer, c'est où la pure souche? Faut m'expliquer. Hein.
Mais justement, là, il y a un homme sur le terrain avec lequel on a discuté et qui nous a dit. Alors, il est arrivé en France, il avait 16 ans. et il en a, je pense, une trentaine aujourd'hui. Et il nous a dit, bah, moi, je suis... Tu vois, on lui a demandé justement, est-ce que tu te considères comme rome, est-ce que tu te considères comme autre chose, comme gitan. Il a dit, bah, moi, je suis gitan. Et donc, il n'a pas du tout mis en avant l'appartenance nationale, en premier lieu, que ce soit, parce qu'il vient de Roumanie, que ce soit une appartenance roumaine ou française. Il a d'abord dit... Je suis gitan. Est-ce que ça, c'est un problème ? Enfin, tu vois, le fait que lui ne mette non. pas en avant la citoyenneté.
Non, pour moi, ce n'est pas un problème. C'est une plus-value. De la même manière que... quand je vais en Bretagne, les gens ne me disent pas « je suis français ». Ils vont me dire « ouais, mais moi, je suis breton ». Ils mettent ça en avant parce que c'est quand même ce qui va faire leur singularité. Mais à côté de ça, ils sont dans un grand tout citoyen. Ils ne sont pas... L'avenir des États... concerne aussi la citoyenneté mondiale. On doit voter, on doit choisir pour nous. Je ne vois pas autrement comment on peut en y échapper. Ou alors, c'est vraiment être con. Être gitan con. Ça existe. Hein. Ça veut dire qu'on ne se sent pas concerné. Ça veut dire qu'on va laisser faire ceux qui vont nous taper dessus. Parce qu'on n'a pas, nous-mêmes, agi en conséquence. Le problème... moi, je vois, par exemple, en Roumanie, mais je vois en Espagne aussi, où il y a une élite gitane qui surgit. Ils sont dans le gouvernement, ils sont dans des postes importants dans lesquels ils représentent la communauté, combien même qu'ils soient espagnols. Mais ils sont porte-parole de la communauté, ils ont un mot à dire et peut-être adapter des choses qui, peut-être culturellement, peuvent ne pas nous convenir. Ça peut être. Mais ça, on en discute. Mais on agit, on est acteur de ça. Alors que le fait de se réfugier, ouais, mais non, ça ne nous concerne pas, mais non, ça, c'est pas pour nous, l'école, c'est pas pour nous et tout. Du coup, quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous-mêmes, on crée nous-mêmes notre apartheid. On va prendre tout ce qui nous est, tous nos droits et les devoirs, on les oublie. Ça, c'est injuste. C'est injuste pour nos enfants. C'est pas juste. En France, c'est pas juste. Le problème de la France, c'est que comme toutes les communautés, au niveau de la ciganité, c'est que toutes les communautés sont présentes, qui va représenter tout le monde ? Donc il faudrait un représentant de chaque communauté ? Oui, mais après, comment on va s'entendre ? Nous, par exemple, les voyageurs, qui ne sont que voyageurs, comment ils vont pouvoir avoir un terrain d'entente avec un représentant des Roms, par exemple ? Moi, je sais que, par exemple, il y a des associations de Roms qui se fritent avec les associations de voyageurs, parce qu'ils ne partagent pas les mêmes objectifs. D'un côté, c'est la culture, de l'autre côté, c'est un habitat. C'est compliqué. Comment on peut s'entendre avec des Roms dont l'habitat n'est pas la caravane, avec ceux qui, potentiellement, le seul problème, c'est juste des places de stationnement. Là, ou alors il faut inventer, encore fantasmer, il faut encore élargir le truc, et donc du coup c'est encore le bordel, quoi. C'est ça le problème de la France, il n'y a pas de leader, et quand il y a un leader, c'est toujours un leader qui veut représenter sa communauté au détriment des autres. C'est aussi pour ça que que c'est compliqué, super compliqué.
Rappelait tout à l'heure qu'il y avait effectivement des tziganes qui vivaient en France depuis plus de 200 ans. Nous, sur les sites sur lesquels on intervient, il y a des familles qui sont installées là depuis plus de 20 ans, qui sont allées de bidonville en bidonville à Saint-Denis. Donc des enfants qui y sont nés et qui ont grandi. Et là, justement, on se trouve dans un dispositif d'intégration. Il s'agit d'un campement stabilisé, en tout cas pour le site sur lequel on intervient à Saint-Denis. Donc intégrer des gens qui sont là quand même depuis fort longtemps. Quel regard justement tu portes sur cette insertion à la française par rapport juste au cas par exemple de ces familles ou de celles beaucoup plus anciennes en fait ? C'est presque nier, en fait, effectivement, après, leur citoyenneté sur le territoire.
Après, la logique d'insertion de France, la française, elle marche par sas, en fait. C'est inimaginable pour la politique d'insertion en France de dire, par exemple, les Roumains qui se disent de Rome, de pouvoir, par exemple, de gérer directement des formations professionnelles, etc. Il faut tout le temps placer les gens dans des cases. Donc forcément, un peu comme une case en disant, bon bah là, on va les socialiser. Genre, c'est des barbares. Genre, ils sont à l'ouest. Ils savent pas être propres. Ils savent pas tout ça, quoi. Donc, du coup, il y a encore une fois de plus, on fait marcher un mécanisme d'insertion à la française en disant, ils sont obligés de passer par là. Si c'est validé, ça passe ici. Et puis, de là. Un peu comme si c'était une sorte de d'étape dans lequel on va leur apprendre à vivre dans une maison. On va leur apprendre à ci. On va leur apprendre à ça, etc. Mais ça, c'est après, je suis désolé, mais ceux qui contribuent à ça, c'est les mêmes associations que je parlais tout à l'heure, qui elles-mêmes gèrent la problématique entre guillemets Rome, parce que eux-mêmes contribuent à ça dans ce stéréotype, c'est que eux-mêmes valident l'impossibilité des Roms, des principaux concernés, à pouvoir accéder tout de suite à un logement. C'est là où le bas blesse, c'est que on dépossède une fois de plus ces personnes-là à pouvoir agir d'une façon singulière et personnelle. Moi, je serais plutôt d'avis d'aller voir ces mêmes personnes-là et faire une sorte de sondage documentaire filmé ou enregistré, parce que avec l'image c'est compliqué. Toi, tu veux faire quoi demain? Toi, tu veux faire quoi demain? Tu veux faire quoi demain? Et ainsi de suite. Et aux enfants, tu te vois comment de tout ça? Moi, je le fais hein, dans mes documents, dans mon travail pour pouvoir nourrir mon travail artistique. Chacun, il s'imagine avec un pavillon. Chacun, il s'imagine, ouais, un travail sympa, un truc comme ci, comme ça. Les mêmes aspirations que tous. C'est pas différent. Alors qu'il y a un intérêt des mêmes structures à maintenir et à entretenir un État parce que les financements sont derrière, dont les salaires, les machins, les trucs, tout ce qu'on veut. Hein. Un travailleur social, lui, il va justifier son truc en disant, j'ai rencontré la famille qui m'a dit machin, on est en bonne voie. Comme si c'était des bêtes de foire, quoi, les Roms. C'est injuste. Ça, c'est injuste. Je sais pas, est-ce que vous êtes rentré? Je pense que oui, mais moi, j'étais en Roumanie, j'étais en Slovaquie, où la situation des Roms, elle est terrible, quoi.
Alors, le dehors, c'est même plus, on peut même plus dire des bidonvilles. Hein. Mais quand on rentre dans les maisons, c'est nickel, avec leurs moyens, évidemment, avec leurs canapés qu'ils ont pu avoir, etc. Mais c'est propre, c'est tout juste, il faut pas se déchausser. D'ailleurs, on se déchausse. Hein. C'est tout, il faut rentrer avec les patins, c'est super nickel. Donc, quand je vois dans les festivals, etc., les réunions de Rome, machin, et tout ça, il y a les tissus partout, le truc un peu bohème, un peu fantasmé, là. Ça me rappelle ce qui s'était passé au Grand Palais avec Bohème, l'exposition de Bohème, où il y avait ce côté fantasmé d'un côté des plasticiens, enfin des artistes comme Picasso, ça s'arrêtait d'ailleurs à Picasso, en 1936, etc. Et on n'avait invité personne, aucun artiste d'origine tzigane, pour pouvoir démontrer qu'il y a une continuité, mais pris par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Alors, et donc, moi, les télés sont venues à la maison. Hein. Il y a France 2 qui est venue, et puis une autre chaîne. Je suis passé dans l'émission culturelle de France 2, justement pour ça, pour montrer qu'il y a quand même quelque chose de contemporain qui surgit de nos communautés, et pas des choses qui sont véhiculées par d'autres artistes, avec le feu de la roulotte, la gitane, qui on voit son décolleté, avec les créoles, machin, enfin, toute cette image d'Épinal qui fait à la Esmeralda, et qui est entretenu aussi par des structures tziganes de France, qui, c'est leur fonds de commerce, par exemple. Enfin, moi, je ne veux pas citer de gens, mais il y a encore des structures qui véhiculent cette image-là, parce qu'il y a un intérêt financier, quoi.
Alors, je fais juste un petit retour sur ce que tu nous disais des associations. Nous, c'est vrai que pour en revenir au terrain Voltaire, par exemple, et ce qu'on appelle dans le jargon administratif un terrain stabilisé, les familles sont dans un processus de sortie du terrain, c'est-à-dire qu'elles sont relogées. Effectivement, dans le cadre d'une mousse, d'une maîtrise d'œuvres urbaines et sociales, par une association qui gère des budgets d'État et communaux, association qui est Alteralia. Ces familles sont sur 3 ans, ont une espèce de contrat. Elles sont relogées dans un premier temps dans des logements sur 8 à 18 mois. Et suite à ce premier sas, on va dire, de socialisation, entre guillemets, dont tu parles très bien, elles vont être logées dans des logements de droit commun. Voilà, c'est effectivement ce parcours qu'elles ont, et effectivement ce sas servirait éventuellement à les socialiser là où il y a sur le campement, sur le bidonville, une, sans être dans le stéréotype, une vraie intelligence sociale, d'hospitalité, d'organisation qui est très pertinente. Qui n'est pas, je pense, spécifique aux Roms. Hein. Moi, je trouve la même dans les villages corses quand j'étais enfant, ou voilà, hein, qui est une solidarité qui est nécessaire quand on est dans une violence sociale qui est maximum, etc. En ce qui nous concerne, on essaye de donner la parole à tous ceux qui veulent l'apprendre. Sur cette question-là, notamment de relogement, en suivant donc ces familles sur ce processus qui va durer 3 ans jusqu'en 2020. Et ça confirme tout à fait ce que tu dis, il y a une multitude de points de vue sur le souhait de chacun de devenir, de s'inscrire ou non dans toutes sortes de parcours en fait. Il y a même toutes sortes de points de vue sur comment s'envisager Rome ou Tzigane ou Gitan, puisque c'est plutôt le terme qu'ils emploient, en France, en fait, dans notre pays. Donc, il y a une polyphonie, en fait, de points de vue. Donc, il faut admettre, en tout cas, nous, dans cette recherche-action, qu'elle est à la mesure de ce projet, c'est-à-dire un microcosme. C'est un projet qui se fait à partir du point de vue de quelques familles et qui n'est pas du tout un point de vue général, en fait. Voilà.
C'est un point de vue singulier.
Absolument.
Ce qui existe partout.
Absolument.
Ton inspiration, elle n'est pas la même que la mienne. Je ne sais pas ce que tu te souhaites pour plus tard. Mais c'est sans doute, peut-être que c'est pareil mais, que moi, mais peut-être pas. Etc. Et tout est respectable, c'est ça. On ne peut pas mettre en place une action qui va nous concerner. Forcément, on doit s'inscrire là-dedans. Je tenais juste à poser une question par rapport à ce dispositif au niveau du terrain Voltaire. Est-ce qu'il y a, à côté de ça, c'est doublé, par exemple, d'initiatives d'emploi?
Absolument.
De formation,
parce que, absolument. Les familles, en tout cas, bon alors c'est compliqué, hein, y a des familles qui sont dans le dispositif, d'autres qui ne le sont pas. C'est les familles les plus aptes à s'adapter, c'est-à-dire les plus jeunes, celles qui parlent mieux le français, celles qui ont le moins de difficultés, qui sont dans le contrat. Et, juste, alors je refais à nouveau un saut sur ce que tu as exprimé au niveau des stéréotypes, d'Esmeralda, de la gitane, etc. Enfin, de toutes les images d'Épinal qu'on peut avoir. Est-ce que tu penses qu'il peut exister des bons stéréotypes tziganes, roms ou gitans?
Je pense que quand on parle de stéréotypes, c'est jamais bon. C'est comme le français à l'étranger avec le béret et la baguette.
Pour le coup, le stéréotype du français avec sa baguette à l'étranger et les stéréotypes potentiellement sur la communauté rome ou gitane, par exemple, ça engage quand même pas les mêmes discriminations. Enfin, ça engage pas du tout la même chose, quoi.
On est bien d'accord, ouais. mais parce que faut resituer, par exemple, les Roumains, qui sont en majorité sur le terrain Voltaire. Si jamais il y avait une atteinte à leur intégrité, à leur personne, à eux, propres individus, est-ce que le gouvernement roumain interviendrait? Posons-nous la question, parce que ce sont des citoyens roumains. Je pense pas. Ils les considèrent comme étant, par exemple, des sous-citoyens. Parce que le stéréotype est ancré. Les Roms, ce sont pas des citoyens à part entière, en sentiment. Même en France, hein. Sinon, ils seraient pas dans des villages d'insertion. C'est aberrant, mais c'est comme ça. Donc, du coup, le stéréotype du français à l'étranger, je suis désolé, ça, c'est du stéréotype qui réduit, en fait. Le stéréotype réduit. Elle enferme, elle met dans un carcan où on ne peut pas s'en échapper. Si on s'en échappe, c'est pas bon. On passe à autre chose parce qu'on veut que ça reste comme ça. Par contre, l'image qu'a la France à l'étranger, notamment avec les produits comme la gastronomie, etc., c'est une plus-value. Moi, je pense qu'il faut parler plutôt des plus-values des communautés tziganes vis-à-vis des autres plutôt que d'entretenir une image d'Épinal qui fait que ça nous enferme et ça enferme tout le reste. Toutes les initiatives pour se sortir de ce stéréotype ne sont pas prises en compte. Mais au niveau d'artistique, par exemple, il y a peu, ou on n'en fait pas écho, d'initiatives, par exemple, qui surgissent des communautés tziganes en France ou européennes et qui sont mises dans un champ d'égalité avec les autres expressions artistiques. Ça n'existe pas. Par contre, quand il s'agit de parler de d'expression gitane, oui, effectivement, là, on va pas prendre, et encore, entre guillemets, au musée de l'immigration, je suis désolé, ça a été 100% sans gitans, hein, il n'y en avait pas. Hein. Et pourtant, ils nous avaient interrogés, enfin, au niveau des fédératifs, pour nous demander si patati patata, mais ils ont fait un entre-soi, une fois de plus, de parler des gitans sans nous.
Tu parles de quoi par rapport au musée de l'immigration? Est-ce que tu peux le préciser?
Oui, c'était avec Monde Tzigane. Moi, j'avais détourné l'affiche et j'avais repris la même affiche en mettant un scotch rouge sur la bouche des personnes en disant « On nous a encore une fois de plus muselés. » On a dit, on a fait dire aux Tziganes ce que nous-mêmes pensions qu'ils disent, sans nous demander vraiment. Et sans interroger, c'était quand même une initiative culturelle, mais les artistes, il y en a. Il y en a. Et sans leur demander si potentiellement ils pouvaient, eux aussi, peut-être retraduire une sorte de pensée qui est actuelle, quoi. Et en fait, là, on nous fait exprimer par d'autres, par des non-gitans, une pensée qui est sentie, mais qui ne sort pas de chez nous, quoi. Donc du coup, nous, on est dans des collectifs européens dans lesquels nous, on peut s'exprimer mieux hors de France qu'en France. C'est aussi la vérité, quoi.
Est-ce que tu peux juste développer sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la distinction entre bon stéréotype et plus-value? Ce serait quoi cette plus-value? C'est le fait de quoi?
La plus-value des communautés de tziganes, c'est la façon de prendre quelque chose d'existant et de pouvoir le transformer, de le restituer d'une façon plus positive et plus pertinente.
Est-ce que tu peux préciser? Est-ce que tu penses à quelque chose, précisément?
Je pense à beaucoup de choses. Par exemple, le jazz, Django Reinhardt. Alors on dit tous, ouais, il est génial, il a inventé le jazz manouche. Oh, comme si il avait inventé le jazz, en fait. Alors que non, il a récupéré quelque chose d'existant, donc c'est le swing, hein, en binaire, en deux temps, et l'a retransposé dans un champ musical culturel qui existait déjà en France, le musette, par exemple. Du coup, ça a fait on peut dire entre guillemets, c'est une invention, mais il n'a pas inventé la base. Il a recréé quelque chose avec de l'existant. Alors, le génie de tzigane, c'est de récupérer des choses existantes et de les reconstituer pour en faire quelque chose de nouveau. Parler du jazz, mais ça peut être aussi le flamenco. Le flamenco, c'est ceux qui sont devenus les gitanos en Espagne, les gitans, ils ont assimilé les produits folkloriques culturels qui existaient dans le bassin andalou et l'ont mélangé avec ce que eux ont ramené, ce qu'ils ont accumulé par l'immigration. Et ce mélange-là a fait le flamenco. Le flamenco, c'est pas une invention, c'est pas gitan, c'est pas de la musique gitane. C'est une compilation de ces deux styles-là. La même chose qu'on retrouve dans le jazz manouche, la même chose qu'on va retrouver dans la rumba catalane. La rumba catalana, gitana, on dit rumba gitane, mais rumba catalane, c'est une belle appellation aussi, c'est une bonne appellation. Ce sont une musique d'aller-retour. Les gitans arrivent, enfin c'est les gitans, c'est le flamenco qui est avec la rumba, mais c'est aussi les musiques d'ida y vuelta, d'aller-retour, qui partent dans les colonies espagnoles de l'époque, donc c'est la musique des Caraïbes, hein, c'est la musique des esclaves, c'est la musique des Amérindiens, c'est la musique de tout ça, qui viennent sur Barcelone, qui repartent avec ce qui a été pris par les marins, qui repart, qui revient. Et qui, du coup, remélangé au flamenco, ça donne la rumba. Par exemple, des Gypsy Kings. Gypsy Kings n'ont pas inventé le flamenco. Par contre, leur son de rumba, il est connoté par rapport à la géographie et par rapport aux pistes d'influence sur le domaine. Mais c'est la peinture aussi. C'est les poèmes. Je ne peux pas vous dire tout ce qui est la peinture. Par exemple, moi, dans mon travail, je n'ai pas inventé la peinture. J'ai pas inventé non plus l'impressionnisme, j'ai pas inventé tout ça, mais je me sers de ce qui existe déjà pour en refaire quelque chose de nouveau. Et chacun puise l'un dans l'autre. Hein. Je veux dire, nous, on puise allègrement dans le fonds artistique non-gitan et le fonds artistique non-gitan puise allègrement dans nos milieux. Hein. Il suffit de voir Sanseverino, il suffit de voir Dutron, le fils Dutron.
Titi Robin
à fond. Mais qui, en même temps, grâce, ou peut-être parce qu'il est dans cette sphère, il pense être de cette sphère. Et du coup, même presque ignorer ceux qui sont potentiellement complètement dans cette sphère-là et qui sont la source d'inspiration. Donc du coup, il y a cette distance où par exemple, Titi Robin, on ne va pas le voir beaucoup dans les bidonvilles, par exemple. Je ne sais pas. Mais s'impliquer peut-être dans des actions peut-être plus fonctionnelles. Moi, je suis parti en Slovaquie, on avait fait un festival qui s'appelait le Festival des bidonvilles. Il y a des groupes connus de musique qui sont partis là-bas. Après, en France, je vois pas trop le truc, quoi. Non, on puise, et puis bon, après, bon, bah voilà, quoi.
Je pensais à son trip album Rive, en fait, qui étudie vraiment les liens qu'il y a pu y avoir entre le Maghreb, l'Inde.
C'est ça, oui. Enfin,
je sais pas, ça m'a semblé presque un travail d'ethnologue, en fait,
oui,
peut-être.
Oui, mais où sont les gens? C'est quoi la plus-value, une fois de plus, de qui ça parle?
D'une part, donc, tu critiques le rapport d'usage, donc de puiser des choses pour son propre bénéfice, donc. Mais aussi, est-ce que la question d'où il parle, donc par exemple, Titi Robin, il me semble que c'est un musicien français, quand tu dis qu'il n'est pas parti, il n'est pas sur les bidonvilles et tout ça, ça veut dire qu'il fait pas, il souffre pas des discriminations de la même manière?
Non, mais il réagit sur les réseaux sociaux, une sorte de cour autour de lui qui contribue aux stéréotypes.
Commencer à aborder cette question à travers le jazz, ça me fait penser vraiment au concept de créolisation, qui est celui du philosophe et poète caribéen Édouard Glissant, qui parle de la créolisation comme d'une culture hybride par le frottement des différentes cultures. Peut-être que c'est ça dont tu parles quand tu parles de flamenco ou de jazz manouche, en fait, qui se produit. Mais c'est peut-être ce qui se passe aussi au niveau de Titi Robin. Mais plutôt pour te demander si ce concept de créolisation, tu penses qu'il peut être opérant dans un contexte de frottement avec une culture hégémonique qui est celle de la France.
Je vais la recentrer autour de la communauté de Cigane. Mm. Par définition, elle est créolisée. Les influences qui ont été prises, la langue, la culture, etc., elle n'est pas restée identique par rapport de là où on est parti, par rapport à là où on est arrivé. Ça a changé. Aujourd'hui, si on fait une photographie de nos cultures, elles ne sont pas figées. Donc du coup, effectivement, on peut parler de créolisation. Constituer une culture qui est faite d'emprunts, avec un squelette, peut-être une souche qui est d'origine. Mais encore faut-il la trouver, cette souche. Il y a une remise en question d'ethnologues, d'ethnographologues aussi, qui s'interrogent sur véritablement notre origine indienne. Personne ne nie que notre squelette de langue, elle est quand même d'origine indienne, archaïque en fait. Et donc du coup, on sait que ça nous a influencés. Alors, est-ce qu'on vient d'Inde ou pas? Peut-être qu'on vient d'Iran, peut-être qu'on vient d'ailleurs, etc. Donc on ne sait pas. On pense que c'est le courant migratoire qui a fait qu'après on s'est séparés en communautés comme les Manouches, les Roms, les Gitans, les Sintés, etc. Et ce n'est pas figé. Alors, quand on parle de créolisation, j'ai toujours peur qu'on pense que c'est une culture de compromis. Le créole, ça a été un moyen pour les personnes, par exemple pour les esclaves, de pouvoir parler au maître. Donc du coup, il y avait leur langue à eux, la langue des Blancs, et du coup, le bon compromis, c'était le créole. Et en même temps, de pouvoir cacher, masquer quelque chose. Dans la culture tzigane, si on parle de créolisation, c'est qu'il y a un intérêt à avoir une culture créolisée et d'en avoir conscience. Ça sous-entend qu'on cache quelque chose. Ou alors, c'est un compromis pour pouvoir parler aux autres.
Je regardais la fois dernière l'étymologie de hybride. À l'intérieur de ce mot, il y avait à la fois la notion de quelque chose qui est fructueux et la notion de chaos. Tu vois ? Donc c'est exactement ce dont tu parles en fait.
Après la créolisation, si la culture tzigane dans sa grande universalité, on va dire, si on parle de ça, on tombe encore dans le stéréotype. Il faut faire très attention. On ne peut pas parler par exemple de la culture maghrébine. Ça voudrait dire qu'on fait quelque chose d'homogène, alors que je suis désolé, les Touaregs, c'est pas pareil que les Berbères, et c'est surtout pas pareil que etc. etc. Pareil, si on parle de créolisation de Tziganes, moi je préfère parler de communauté gitane. Et encore, faut-il parler de qui on parle chez les gitans. Comment fonctionne la communauté des Manouches. Encore faut-il savoir de quelle, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc du coup, on va arriver à ce que on aurait intérêt à parler d'un truc global. Moi, je suis plutôt en train de saucissonner le truc, parce que là, je veux bien parler des choses, mais ponctuellement de tel, de tel, de tel, de tel. Après, peut-être qu'il y a des traits communs, et peut-être que l'étude, c'est là qu'elle doit se faire. Alors, on a quelque chose de langue qui se ressemble, on a peut-être de l'extérieur des choses qui se ressemblent, mais après, dans le fonctionnement, c'est pas pareil. C'est un peu, je reprends le syndrome de l'Amérindien, vous passez en voiture dans des tipis, vous savez pas qui est dedans, quoi. Et pourtant, vous allez tous homogénéiser le truc, un peu comme avec les caravanes. Ah ouais, regardez, il y a des gitans, ils se sont installés, ça se trouve, c'est même pas des gitans. Juste un truc peut-être à rappeler, c'est quand on parle de caravanes, de campements, enfin de campements ou de terrains où il y a des gens du voyage qui sont installés, on a tous tendance à dire que ce sont des gitans. Il ne faut pas oublier que si on prend 100% de gens du voyage, il n'y a que 20% qui font partie de la communauté tzigane. Le reste, ce ne sont que des voyageurs. Ça veut dire des gens qui, à un moment ou un autre dans leur famille, ils se sont bien voyagés. Donc, pas le socle de la tziganité. Il n'y a pas ça. Même s'il y a un emprunt de mots, etc. Là, on peut parler de créolisation. Les voyageurs, moi, je pense qu'ils sont en processus de créolisation. Ils ont inventé, les voyageurs, hein, que voyageurs, ils ont inventé un système un système culturel qui fait qu'on les identifie comme tels. Donc, on est des voyageurs. Donc, comme si c'est un pays, comme une culture, alors que ce n'est qu'un habitat. Et avec des mots empruntés aux Romani. Vous demandez à un voyageur de vous faire une phrase complète en romani, ils ne peuvent pas. Mais ils ont glané des choses, et du coup, la société globale non-gitane, va les identifier comme étant des gitans. Quand on creuse, il y a un moment, ils disent, bah non, on n'est pas des gitans, on est des voyageurs. Ils disent, ah oui, mais vous savez, nous, les gitans et tout, ah, vous êtes des gitans, vous êtes des espagnols alors. Ah ben non, on n'est que voyageurs, mais bon, on nous appelle des gitans. Voilà, il y a toujours cette volonté de vouloir s'approprier d'une image. Mais quand on creuse, l'image, elle peut desservir aussi.
Oui, là, pour le coup, tu trouves que ça contribue au stéréotype sur les Roms.
Ouais, mais je pense que nous-mêmes, on le fabrique aussi un peu.
J'ai lu un bouquin qui s'appelle « De l'utilité politique des Roms » d'Etienne Liebig, justement. Et bon, alors, il entend Roms dans le sens de catégorie politique plutôt qu'autre chose. Il explique que dans les processus racistes, on apprécie justement les rites de cette personne qu'on racise. Et que ça peut effectivement parfois être utilisé dans un processus de survie ou autre chose, quoi.
Alors, je sais pas, tu parles de survie. Je sais pas si on est dans un... Maintenant, si on est dans un processus de survie. Je crois qu'on est plutôt dans un processus de on veut se maintenir comme tel. Mais ça veut pas dire qu'on s'écarte de l'évolution du grand tout. Il y a 20 ans de ça... On n'avait pas les téléphones portables, on n'avait pas tout ça, donc maintenant on les a, ils font partie de notre quotidien. Donc on n'échappe pas à l'évolution des sociétés, même si à côté de ça, on a d'autres particularités. Pourquoi arrêter de faire ce qui nous semble bon, même au niveau de l'éducation de nos enfants, etc. Ou la vision qu'on a, nous, par exemple, des structures, par exemple l'école. À quoi sert l'école ? Il faudrait se poser les bonnes questions. Posons la question, non pas à la communauté globale comme ça, comme si la réponse d'un Rome, d'une personne ou d'un gitan, etc., allait résumer toute l'homogénéité de cette réponse-là, mais posons individuellement la question, est-ce que l'école est bonne pour vous ? Est-ce que ça vous sert à quelque chose, etc.
On te la pose.
Moi, je pense que oui, l'école, c'est le vecteur, c'est le terreau de notre émancipation. Quand on voit les aires d'accueil, etc., ça fait réserve indienne. Il n'y a pas une vraie liberté, même si en France, on a le droit d'aller et venir comme on veut. Mais les gitans sont super déconsidérés. Il y a encore ce stéréotype super ancré dans la culture qui fait que on voit les gitans avec des belles voitures, on voit les gitans, ils ont des liasses de billets et tout, alors qu'eux, on voit comment on se doute d'où ça provient. Par exemple, il y a toujours ce côté, c'est pas normal, par exemple, que les gitans ou les tziganes soient mieux que les autres. Il y a toujours cette volonté, il doit être miséreux, il doit être errant, il doit être mendiant, il doit être tout ça, parce que au-delà, autrement, c'est suspect. Donc, du coup, je pense que l'école pourrait, permettrait nous-mêmes de fabriquer nos propres contre-feux.
Quel est ton regard sur la situation des Roms en France ?
Des personnes perçues comme Roms, en fait. C'est, je pense que...
Oui, mais en France, on ne perçoit pas les Roms.
Je sais, mais tu vois, le... quand il me semble, enfin, en tout cas, moi, quand j'emploie Roms, et justement, c'est un truc que... Bon, bref, on reviendra là-dessus, mais que tu reprochais à Valérie Mito et à Anna Pitoun. Et donc, j'aimerais bien qu'on développe là-dessus aussi. Mais donc, quand elles employaient le mot Roms, elles l'employaient comme, une, comme un perçu. C'est comme, par exemple, quand tu parles d'arabe ou de noir. Ouais, c'est évidemment, voilà. Mais c'est une perception et c'est le fait que bah, c'est une racisation, en fait. Donc...
Nous, en France... Je redis ce qui avait été dit tout à l'heure. On ne se perçoit pas comme Roms d'une façon générique. Ça n'existe pas en France. Combien même que des volontés autres veulent homogénéiser ça et nous réduire à ça. C'était le discours de Sarkozy. Hein. Les gens du voyage, les Roms, il avait amalgamé tout ça en nous faisant devenir des étrangers de France, de l'intérieur. On était devenus ça. Du coup, pour le grand inconscient collectif de France, effectivement, c'est vrai qu'ils nous font chier ces Roms, donc les caravanes et tout ça. Ce que, à quoi les associations des gens du voyage ont réagi en s'écartant justement de toute cette imagerie qui correspond aux Roms en disant « nous, on n'est pas ça, quoi. On n'est pas comme eux ». Donc du coup, ça a créé même une sorte de racisme à l'intérieur des communautés. Ça veut dire que les Roms, c'était dans l'échelle de la tziganité en France, les Roms étaient encore une fois de plus en bas de l'échelle. Alors que, par exemple, en Espagne, on va pas parler des Roms, on va parler des gitans d'une façon générique en incluant les Roms. Mais en Espagne, il n'y a que deux communautés. Il y a les gitans natifs, on va dire, entre guillemets, l'occitano, et les Roms qui sont venus, mais qui sont considérés comme des gitans de Roumanie. C'est comme ça qu'on appellera. On va désigner pour les identifier. En France, on dépossède ça. On a enlevé ça. Ça veut dire qu'on va parler des Roms. Mais des Roms, oui, mais non. Attends, moi, je ne sais pas qui c'est les Roms. C'est quoi, des Roumains, des Slovaques, peut-être des Hongrois ou peut-être des Français. Des Français, nationalité française. Et l'école, ce que j'aime bien dans l'école, c'est qu'elle lisse tout ça. Ça veut dire que le gamin qui fait son devoir de français, etc., il rentre à la maison, il a la même galère pour faire ses devoirs, et donc du coup, bah, ça participe. C'est une machine à intégrer quand même, l'école. Après, bon, je peux être plus virulent, mais il y a des fois intérêt aussi dans nos communautés de ne pas envoyer les enfants à l'école, parce que ça entretient aussi la distance avec la communauté non-gitane, et puis ça entretient aussi le côté un peu « nous, on est à part ». On se fabrique à part, et après, c'est des volontés, je pense, individuelles.
Dans quelle mesure et jusqu'où tu considères comme responsable de ce qui arrive à autrui
De ce que tu considères comme ta communauté, peut-être.
Voilà, en
mais
France.
Mais de quelle manière responsable? Je pense que maintenant, il est temps. Nous arrivons à un moment de début de siècle où il faut qu'on réagisse. D'ailleurs, on réagit d'une manière européenne, on réagit. Après, ici, vous avez une photographie de ce qui se passe en France sur des morceaux, sur des petites photographies. Globalement, il y a une prise de conscience européenne des communautés tziganes dans leur grande généralité dans laquelle on agit. Et en prenant soin des différences entre nous. Ça veut dire qu'on parle peut-être aussi d'une même parole, du même cri, au même niveau, mais en incorporant avec cette prise en compte de nos différences. Un gitan, il ne va pas parler comme un Rom de Roumanie, par exemple. Ceci dit, on va parler de la même chose en disant que dans nos pays respectifs, on est discriminé parce que, deux points, et puis là, on va étayer pourquoi. Donc, il y a cette prise de conscience-là. Après, moi, dans mon travail, dans ma production artistique, moi, je fais partie, comme d'autres artistes tziganes européens, je fais partie d'artistes impliqués, artistes sociaux, je ne sais pas comment artistes engagés. Ça veut dire que nous faisons un travail qui a du sens et qui exprime des choses et qui renvoie le spectateur, je sais pas comment on dit, celui qui voit le produit artistique et qui lui permet de s'interroger. on contribue à ça. Mon travail, par exemple, il est complètement là-dessus, quoi. Il n'est pas comme d'autres où on nous attend peut-être au tournant.
Quelles sont tes prochaines expositions, d'ailleurs, et tes prochains projets ?
Alors, j'ai sorti un ouvrage qui s'appelle « De noir, de blanc ». C'est des illustrations avec des textes, parce que c'était difficile. Alors, j'écris pas mal de choses, parce que je conçois mes expositions écrites, en fait, beaucoup. Ce qui me permet, après, de ne pas m'en écarter, parce que sinon, je serais partout et je ferais pas grand-chose de fort, quoi. Donc, je conçois mes expos, non pas un tableau. Je conçois des pièces qui correspondent à l'exposition avec un titre, voilà ce que je veux dire, voilà, patati, patata, enfin, tout est calé comme une scénographie écrite, comme une pièce de théâtre. Et donc, du coup, avec ça, c'est là où je vais commencer à fabriquer des pièces artistiques, et pas un truc là, que je réunis, et puis après, combien même que des fois, je réunis des trucs et que je renomme, mais souvent, c'est ça, ça me fait travailler là-dessus. Donc, des expos, là, je suis bientôt à Decazeville, au mois de novembre. Je crois que Berlin aussi, ils organisent encore un truc avec moi. Et là, je suis sur la perspective de sortir une sorte de documentaire vidéo entrecoupé d'images, dessinées, noir et blanc, sur des choses essentielles, mais qui n'est pas liée à la tziganité, mais qui est liée au devenir de chacun. Donc j'ai déjà des personnes du spectacle qui sont partantes, des gens très connus, qui veulent bien participer au truc. Et donc ça va être des questions comme c'est quoi la vie, c'est quoi la mort, c'est quoi la haine, l'amour. À quoi ça sert de vivre, à quoi ça sert de pas vivre, etc. Qu'est-ce qui nous différencie ? Là, je peux vous poser la question.
Oui,
à quoi elle sert la vie ?
Une des questions universelles.
Pour la planète, c'est quoi la plus-value de la vie pour la planète ? Posez-vous cette question-là. Dur. Hein. Quand on est enfant, on sait répondre à ça. Hein. Après, quand on est grand, on sait pas.
Bon, alors j'ai une autre question qui est beaucoup plus terre à terre. Quand tu parlais de notre collectif européen, tu parlais de quoi ?
Alors, il y a un collectif européen qui s'appelle. ERIAC. Il y a une structure européenne, c'est une association financée par l'Open Society, donc Soros, en filigrane, qui s'appelle ERIAC. Donc, il finance des initiatives qui tournent autour de l'art issu des communautés tziganes. Rom pour eux, tziganes pour nous. Donc il y a toute cette prise en considération des initiatives contemporaines. Hein, je tiens vraiment à le dire. Ne rentre pas là-dedans, par exemple, des personnes qui seraient des artistes, mais qui exploiteraient, par exemple, le folklore lié à la tziganité en France, par exemple. Ou, par exemple, les conteuses, conteurs, etc., avec des contes qui sont souvent contés en robe traditionnelle, etc. Tout ça, c'est pas le truc. Parce que ça, nous, on pensait que ça dessert, en fait. Ça dessert parce que on n'est pas habillé comme il y a 200 ans, par exemple. On n'est pas des Quakers, quoi. Ça dessert le truc de maintenir cette image-là parce que ça empêche, justement, les générations de s'émanciper et puis de pouvoir grandir d'une façon singulière. Ça a toujours été notre problème, en fait.
Un mot de conclusion, Gaby Jiménez.
Achetez-moi des tableaux.
Merci beaucoup pour cet entretien et ce moment que tu nous as accordé. À bientôt.
Pascal, Djembé, Guillaume, Paul des Américains, Paul Pascal, Daniel, Paul, Christophe. Constantin.